Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir Michel Déon de l'Académie française au sujet de la réédition en collection blanche chez Gallimard de son célèbre livre « Les poneys sauvages ». Monsieur Déon, bonjour.
Bonjour.
Le prix Interallié vous avait été décerné, c'était en 1970, grâce à ces poneys sauvages. Mmh. Comment ce titre vous est-il venu à l'esprit? Un titre, c'est avant, après, pendant l'écriture?
Non, vous savez, les titres peuvent toujours venir à n'importe quel moment. Mais on ne va pas trouver un titre avant d'écrire un livre. Donc, c'est arrivé peut-être à la fin. Il y a une scène dans laquelle apparaissent un jeune couple qui sont dans la forêt vierge anglaise. Très belle forêt dans laquelle il y a des animaux en liberté. Et ils regardent, c'est pendant la guerre, ils regardent par la fenêtre ces moments de paix, de tranquillité pendant laquelle des poneys, en effet sauvages, ce sont les poneys de la New Forest, viennent brouter sous les fenêtres de l'hôtel où ils se trouvent. Et quand ils rentrent à Londres, c'est le bombardement, l'activité de la guerre, la ville absolument sous pression. Et ce moment paisible qu'ils goûtent à deux en regardant par la fenêtre, c'est le titre du roman et c'est aussi l'emblème du roman.
C'est l'image.
L'image.
La liberté inaccessible en pleine période de guerre.
Voilà,
soit quoi on rêve.
Oui, c'est pris en 1941, n'est-ce pas, au plein bombardement de Londres et où l'Angleterre ramassait ses forces pour repartir à l'assaut, car elle avait été aussi cruellement blessée que la France.
Alors, rappelons que le grand livre du roman de l'Académie française, vous avez été remis en 73, c'était cette fois pour Un taxi mauve.
Oui, ça c'est le grand prix, pas le grand...
Le grand prix du roman.
Le grand prix du roman de l'Académie, 3 ans après.
Ensuite, Michel Déon, vous nous avez offert Le jeune homme vert, avec une très belle réalisation à la télévision du jeune homme vert qui avait
Non, c'était très très bien fait. Et c'est l'époque où la direction de, je crois que c'était...
Antenne 2 à l'époque, le service public, oui.
Était dirigée par Marcel Julien, qui était un éditeur venu là un petit peu miraculeusement. Et Marcel Julien, qui venait de l'édition, qui venait de la presse, il n'a pas compris qu'à la télévision, il fallait attendre, ne pas répondre, faire passer un projet dans 25 bureaux. Non, il décidait, ça c'est pris, ça c'est bon. Et le lendemain, on commençait.
C'était la période solaire du service public.
Exactement, c'est une période solaire. Et grâce à cette période, beaucoup d'écrivains ont eu leurs livres adaptés. C'était l'entrée de la littérature, la fiction télévisée. Et ça a été un très grand moment.
C'est ce qui a permis à un grand nombre de téléspectateurs de découvrir un homme de littérature à travers l'adaptation qui en avait été faite de son œuvre.
En fait, les deux livres les plus connus, qui sont « Les poneys sauvages » et « 20 ans du jeune homme vert », sont aussi des séries télévisées, d'ailleurs absolument remarquables.
Vous avez peut-être une écriture qui tend à donner envie à des créateurs de l'image et du son de vous mettre en scène.
Écoutez, ça n'est pas arrivé très souvent pour toutes sortes de raisons. D'abord, c'est parce que je vis un petit peu en milieu, en marge de ce milieu. Ensuite, parce que je suis assez catalogué dans la littérature et que ça n'est pas le ton pris généralement par la radio officielle, la radio de la République.
Eh bien alors, ce n'est pas le cas, à l'écoute de Canal Académie. Alors, Le jeune homme vert, Les 20 ans du jeune homme vert, Un déjeuner de soleil, Je vous écris d'Italie, La montée du soir, Mes arches de Noé, Bagages pour Vancouver, Page grecque, Parlons-en, qui est un livre conversation avec votre fille, Alice Déon.
Mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est à la fois ma fille m'ayant lu et me comprenant, ne m'ayant pas parlé de ces choses-là avant, tout d'un coup surgit de ses silences et me montre qu'elle connaît très bien ce que je n'oserais jamais appeler mon œuvre, mais disons ça parce que ça facilite les choses.
Alors donc, c'est un ouvrage complice entre le père et la fille?
C'est un ouvrage, oui, c'est un ouvrage, en même temps, c'est un travail sur le roman. Elle demandait où sont vos sources, pourquoi avez-vous écrit ça? Est-ce que j'ai remarqué ceci ou cela?
Elle vous demandait donc des explications développements par
rapport. C'est à la fois quelqu'un, disons-le, tant pis, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, et qui, de par la vie que j'ai fait mener à mes enfants quand ils étaient petits, est très international. Alors, la plupart de ses romans, ce sont des romans qui se promènent pas mal dans le monde.
Voilà, tout à fait. L'énoncé d'ailleurs de tous ces titres sont des invitations au voyage, à l'aventure, aux déplacements de toutes sortes, aux expériences de la vie, aux atmosphères de vie différentes.
Il n'y a qu'un mot que je n'admettrai pas tellement, c'est le mot déplacement, parce que je ne suis pas du tout un voyageur. Je suis ce que Paul Morand m'avait qualifié dans un article de nomade sédentaire. C'est-à-dire que je vais dans un pays et je m'y installe, j'essaye d'apprendre plus ou moins la langue, de connaître sa littérature, sa musique et sa cuisine. Chose absolument indispensable. Et donc, vous voyez, il faut un petit peu de temps. Quand je me suis installé
en Grèce.
En Grèce, d'abord en Italie, très longtemps, et puis aussi beaucoup, beaucoup en Grèce, beaucoup au Portugal, finalement même aussi aux États-Unis. Là, je ne me prends pas du tout pour un voyageur. D'ailleurs, je n'aime pas tellement voyager. Et c'est comme ça va de mal en pire, j'essaie d'éviter ça au maximum. Mais de comprendre l'esprit d'un pays, de comprendre ses mœurs, ses habitudes, de se référer à son passé et d'essayer de pénétrer un petit peu les secrets de sa langue, la musique, des mots et puis les gens, comme connaître les gens. Ça demande du temps. Ça ne se fait pas en un voyage de 48 heures.
Ce sont des qualités d'adaptation et de grande curiosité.
Oui, c'est le contraire du voyage, en fait. Oui.
La recherche de l'autre.
La recherche de l'autre, comprendre ce qui vous lie à ces gens-là, pourquoi votre curiosité s'est adressée là. Généralement, c'est toujours par le biais des livres et de la littérature, que ce soit la poésie ou même la musique aussi, naturellement, qui est très attirante. On est très attiré par la musique espagnole, par exemple. On est très attiré par l'opéra italien. En Grèce, on est attiré par d'autres choses qui étaient le goût des îles que j'ai toujours eu dans ma vie, ayant aussi pas mal navigué.
Et maintenant, c'est l'Irlande.
Voilà.
Alors, mais vous êtes parisien de souche.
Je suis né à Paris, parisien de souche, d'un père parisien, d'une mère qui n'était pas née très loin de Paris.
Vous avez vu le jour au sein d'une famille de militaires, de fonctionnaires, est-ce que je me trompe?
Non, bien sûr.
Voilà. Vous avez vous-même entrepris des études de droit, mais d'après ce que j'ai pu lire vous concernant, avec déjà dans l'esprit cette voie littéraire. Alors c'est quoi? C'est le plaisir, le jeu des mots pour se raconter, pour raconter aux autres. Avoir eu cette envie, ce désir très jeune, c'est pas vide de sens.
Non, je vais vous dire, je crois que ce ne soit pas tout à fait ça. Je crois, et j'ai retrouvé un jour un souvenir comme ça dans la préface de mes œuvres presque complètes qui a été publiée par Quarto. On m'a dit de faire une préface, d'habitude c'est un critique, c'est celui qui a fait l'édition qui fait la préface. Là, on m'a demandé de la faire. Et tout d'un coup, je me suis souvenu d'une chose que je n'avais pas oubliée, mais que je considérais comme minime. C'est que nous habitions dans le 16e, avenue Mozart, et j'allais à un petit cours j'avais 4 ans, 5 ans. J'ai appris à lire peut-être en 15 jours. Je ne sais pas pourquoi, c'était très facile.
Magnifique.
À écrire aussi, d'ailleurs, très mal, encore pire aujourd'hui. Et ça ne s'est pas amélioré. Et pour rentrer à la maison, il y avait, dans ce cours, il y avait une classe supérieure, il y avait une jeune fille qui habitait le même immeuble, et qui, très gentiment, me prenait par la main et nous revenions, nous descendions l'avenue Mozart, et elle me déposait devant chez moi. Et un jour, je suis tombé, comme les enfants glissent, je me suis ouvert un peu le genou, je saignais et tout. Et puis j'arrive à la maison, et ma mère exagérait à plaisir, voyant que ce n'était pas très grave, elle dit « Mon pauvre petit, mais c'est affreux, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et moi je lui dis « Venu Mozart, là, quand nous sommes sortis de l'école, j'étais attaqué par un loup qui m'a mordu. Mais j'ai trouvé un bâton et je l'ai tué. » Et voilà, je suis revenu avec Yvonne qui me tenait la main. Alors, évidemment, on aurait pu me dire, vous avez petit menteur, fabulateur, cet enfant est fou. Pas du tout. Mes parents, le soir, m'ont dit « Mais merveilleux, mon petit garçon, comme tu es gentil, penser qu'à ton âge, tu as pu tuer un loup à un coup de bâton, la chance d'avoir trouvé un bâton comme ça, avenue Mozart et tout. » Il y avait des amis qui sont venus dans les jours suivants. On dit, vous savez, tous, on dit, vous savez,
une légende
il a fait, il a tué un loup avenue Mozart. Oh, tout le monde dit, mais quel enfant merveilleux. Je me demandais si on ne te foutait pas un petit peu de moi. Et puis, non, pas du tout. Et au fond, c'était ma carrière de romancier qui commençait.
Dans le rêve, dans la transposition des choses et des éléments de la vie. Et magnifique que votre entourage l'ait compris, l'ait perçu.
Ah oui, mais, non, mais ça, j'ai eu des parents pour ça très ouverts.
Et très respectueux de la construction de l'individu.
Mais oui.
Et accompagnant. Vous avez déclaré, j'ai lu ça dans un article que vous aviez accordé à l'un de mes confrères, ne pas avoir relu Les Poneys Sauvages pendant des années. L'écriture de ce livre, dites-vous, m'avait occupé pendant de si longues années que vous l'aviez laissé un peu de côté pour vaquer à d'autres écritures. Mais je savais que ce livre poursuivait une carrière extrêmement honorable, etc. Mais beaucoup de jeunes vous en ont parlé ces dernières années. Et vous avez fait le constat que plusieurs générations avaient lu Ces Poneys Sauvages. Et vous vous êtes posé la question, alors comment l'envie d'une réécriture, est-ce une réécriture? Racontez-nous alors cette nouvelle vie des Poneys Sauvages.
Oui, écoutez, ça, je pense que le livre n'avait pas été oublié. Si je regarde les tirages, par exemple, de l'édition Folio, qui était, c'était constant, il y avait un intérêt constant, il était étudié dans des classes. Et tout d'un coup, je n'en entendais pas parler. Mais c'est depuis 3 ou 4 ans, il s'est passé une chose curieuse que je ne m'explique que par, peut-être par la grâce des professeurs qui ont mis ça au programme à un moment. Je me suis vu bombardé de lettres. Je voyais des gens jeunes ou même des gens de tous les âges, mais surtout des gens très jeunes. Donc il y avait déjà 2 générations entre eux et moi, 2 ou même peut-être 3. Et qui venait et qui me disait, vous savez, j'ai lu Les Poneys Sauvages. Et voilà, bon, on faisait des compliments que je ne vais pas répéter parce que nous sommes tous très modestes. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même assez curieux. Tant de livres ont un succès comme ça. Il y avait eu un très gros succès en 1940. Et disparaissent, voilà, plus personne ne sait qui c'est et ce qui a été publié, quelle date a été publiée. Non, et tous les témoignages étaient très curieux, je me suis dit, tiens, il y a 2 générations passées et la 3e qui arrive, tout d'un coup est consciente que dans ce livre, il y a un peu du destin de l'Europe.
Voilà. Donc, vous avez revisité cette écriture, votre écriture.
Oui, alors à ce moment-là, j'ai pris un petit peu de temps parce que le livre est long et je l'ai relu.
Mais pourquoi ce souci de cette nouvelle version?
Je veux dire, parce qu'un romancier, il passe sa vie à apprendre des choses. N'est-ce pas? Le fait de faire partie de plusieurs jurys, de recevoir une, j'allais dire un orage de livres par an, 400 à 500, je ne dirais pas que je les lis. Mais de temps à autre, je suis quand même, je plonge dedans. Et le plus instructif, ce sont les mauvais livres. C'est ceux-là qui vous apprennent ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je me suis, à la suite de toutes ces rencontres de hasard, je me suis replongé 40 ans après dans Les Poneys Sauvages, j'ai vu les erreurs que je faisais et que j'avais faites, qui sont très explicables parce que le livre était énorme à faire. C'est une entreprise qui a duré longtemps, sur laquelle j'ai beaucoup, où la combinaison des événements, où les personnages sont nombreux. Et où c'était ça que j'essayais de maîtriser, et je n'ai pas assez filtré, si vous voulez, l'écriture. Depuis, à la suite d'ailleurs de quelques reproches amicaux, dont ceux, de, par exemple, de Kleber Hedas, qui était un grand ami, qui avait fait un superbe article sur mon livre, et qui disait, mais vraiment, il y a trop d'épithètes, il y a des conjonctions inutiles, comment est-ce qu'il n'a pas vu ça? Il avait parfaitement raison. Et 40 ans après, me souvenant de cet article, et puis moi-même armé d'une expérience livresque très étendue et très large, étant condamné de temps à autre à lire un très mauvais livre, parce qu'il est apprécié par beaucoup de gens, je veux savoir pourquoi, Et j'ai retrouvé dans mon livre quelques-uns des défauts qui me hérissent le plus dans ce que j'appelle les mauvais livres. Et je ne vais pas vous citer des noms, même s'ils sont très connus.
C'est de l'ordre de l'exigence professionnelle.
Voilà, c'est ça. Et puis, je peux vous dire que la vie d'un écrivain, c'est la vie d'un autodidacte. Et on apprend. On est constamment sur les bancs de l'école, constamment éveillé par des événements qui vous passent sous le nez quand vous avez 20 ans et qui, au contraire, deviennent évidents quand vous en avez 30 ou 40 ou 50 ou, comme moi, 90.
Mais vous en conviendrez, le petit coup de brosse, comme vous le nommez, ce travail supplémentaire opéré sur ce livre, Les Poneys Sauvages, ce travail n'a pas empêché le succès intergénérationnel dont nous parlions tout à l'heure pour votre livre. Le fond était là. Et c'est ce qui nourrit le lecteur, c'est ce qui nous suffit. Le reste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une exigence personnelle, professionnelle.
À l'égard d'un livre qui a eu du succès et qu'on peut toujours améliorer.
Les Poneys Sauvages, Michel Déon, les désenchantements d'une génération à travers cette vaste fresque qui va donc des années 30 aux années 60, c'est en parallèle un peu votre vie, la mobilisation, la guerre, les idéologies qui étaient là, qui faisaient vivre, qui soutenaient et puis qui ensuite sont tombées comme des châteaux de cartes.
Oui, nous avons été, et moi je suis né en 1919, donc vous pensez, je suis tombé en pleine bagarre, n'est-ce pas? Et heureusement, mes études de droit ont été interrompues grâce à ça. Je m'y ennuyais, je n'étais pas fait pour ça. Je regrette, la seule chose agréable, c'était les camarades, le milieu étudiant intéressant à cette époque-là. Vraiment. Mais j'étais assez content d'être délivré de cette hypothèque de passer une licence et puis de suivre une filière, alors que je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais vraiment envie d'autre chose. Mais à 20 ans, on peut difficilement dire « je vais devenir un grand romancier », n'est-ce pas ? Mais on peut se dire « je vais essayer d'écrire » et voilà. Et c'est pendant cette guerre et quand j'ai été démobilisé que j'ai commencé à écrire un roman pour la première fois. Un mauvais roman et puis un moins mauvais qui a été publié en 1944. Il a été publié le 25 août 1944. J'ai pu ouvrir tous les journaux le lendemain matin, il n'y avait pas un mot là-dessus, c'était le jour de la libération de Paris. Ça a occupé tout le monde, mon livre était passé inaperçu. Et alors, ça n'a eu aucune importance, finalement c'est un livre qui avait trouvé des lecteurs. C'est une histoire assez naïve, que plus tard, puisque j'ai cette habitude, j'ai complètement réécrit, sous un autre titre, et avec pratiquement d'autres personnages, mais un fond assez semblable, ça s'appelle Un souvenir. C'est un livre auquel je tiens beaucoup, puisque c'est au fond, c'est un véritable souvenir de ma jeunesse.
Hommes et femmes, nous sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée qu'elle a des minutes, le sentant tous, qui dépasse chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France de part, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Est-ce qu'un romancier doit passer par des expériences de vie, des expériences humaines, pour écrire ?
Oh ben, je pense, oui. Oui, il faut avoir payé un petit peu de sa personne. Bon. Je ne dirais pas que ça m'a fait plaisir de faire la guerre, mais bon. Ou bien d'être, comme plusieurs années après, en reportage sur des fronts divers dans le monde. Je ne peux pas dire, mais enfin, c'est une expérience, c'est quelque chose qui se grave dans votre tête. Heureusement, ça ne s'est pas gravé dans ma peau, mais ça s'est gravé dans ma tête, les choses que j'ai vues, les êtres que j'ai connus et les scènes que j'ai vues qui sont assez extraordinaires.
Alors justement, dans Les Poneys Sauvages, c'est l'histoire de quatre hommes qui ont fait une sorte de serment de vivre une vie un peu hors du commun.
Oui, oui.
Ces quatre vies nous emmènent très loin, aux quatre coins du monde. Alors, on passe par la période de la guerre. Certains d'entre eux y restent. Donc, quatre jeunes étudiants. Il y a Georges, le français, Georges Saval. Barry, le passionné de boxe. Il y a un aristocrate aussi, toujours à distance, c'est Horace. Et puis le poète, plein de fantaisie, son prénom c'est Cyril. Alors tous sont pris dans ce tourbillon de la guerre. Donc Cyril perd la vie, Georges est sauvé par Barry. Donc c'est toute une fresque historico-politique menée autour de personnages très attachants et qui relatent des faits, des événements, comme l'affaire Sisala pendant la guerre d'Algérie, comme les massacres de Katyn, l'opération ratée du canal de Suez, etc. Alors, la question, c'est comment réussissez-vous à imbriquer, parce que c'est un art magnifique que le vôtre, de mêler la grande histoire à la petite histoire. Mais on s'aperçoit que cette petite histoire, celle de tous vos personnages, cette petite histoire fourmille de détails, des détails physiques, des détails psychologiques, qui placent le lecteur carrément dedans, dans la scène, dans la situation, et qui fait qu'on vit cette grande histoire, mais à travers le crible et le regard et la vie, l'expérience, le malheur, les tourments, les joies de ces personnages qui sont nos chevaux de Troie par rapport à la grande histoire dans laquelle vous
les situez. Tout ce que vous venez de dire, c'est très bien vu, c'est exactement ça. Ce qui m'amuse tout d'un coup, pendant que vous parliez en même temps, m'est venue une image, c'est-à-dire qu'il y a quatre personnages. Et comme un livre qui m'avait tellement plu dans ma jeunesse, les quatre Raymond, Paul Morand aussi a fait un livre avec quatre personnages. C'est un thème qui revient assez facilement. Et surtout, d'un livre très important que j'ai toujours beaucoup aimé, Les Pléiades de Gobineau, n'est-ce pas ? Alors voilà, il y a un cadre dans lequel on sent qu'on peut se glisser tout en restant très personnel. Parce que là, on a les données très précises dans lesquelles les personnages doivent évoluer. Et moi, les données très précises, c'était l'histoire de mon temps, c'est-à-dire l'histoire qui a commencé juste avant 1939 et qui aujourd'hui ne s'achèvera pas, enfin.
Mais il y a une espèce de jeu, J-E-U, de technique que vous utilisez. Alors, j'ai entendu dire que le B.A.B.A., pour un écrivain, romancier, qui travaille sur des trames historiques, c'était de ne pas placer l'évocation du fait historique dans la bouche d'un personnage, que le personnage raconte ce qui s'est passé, ceci, cela. Quel procédé ? Est-ce qu'il est possible de parler de procédé ? Peut-être que c'est quelque chose, comment dirais-je, de top secret, quelque chose que vous avez acquis, une espèce de technique que vous avez développée et qui vous est facile d'utilisation.
Peut-être que j'ai un petit don. Non, mais je voulais vous dire que...
Est-ce que ça se travaille, ce don ? Ou est-ce que vous l'avez ?
Oui, ça se travaille, bien sûr, mais il y a quand même... Bon, on a une chance dans la vie, pas toujours la même, mais enfin, bon, les romanciers sont doués pour certaines choses. Mais il y a quand même une chose extrêmement curieuse. Dans Les Poneys Sauvages, à la suite, un journaliste est convié à une opération dans laquelle on lui demande d'être un témoin et de jurer sur l'honneur de ne pas raconter. Et cette opération, nous savions qu'elle existait, elle n'a jamais été complètement dévoilée, c'est l'affaire Sisala, c'est-à-dire la reddition de la rébellion algérienne qui rendait les armes. Et j'ai entendu parler de ça, j'ai essayé de savoir, pas si je savais. Je connaissais l'endroit parce que j'ai très bien connu, je me suis promené beaucoup dans l'Algérie avec l'armée d'ailleurs, je sais bien que j'ai inventé. Et tout d'un coup, des années après, 2 ans ou 3 ans après, je reçois une lettre qui me dit à peu près « Comment est-ce que vous avez su tout ça ?» Plus une deuxième lettre du général Schall, qui était commandant en chef, c'est ça, qui m'a écrit de la prison. « Comment savez-vous ça ? Je ne fais pas de 20 compliments dont vous vous foutez, mais tout ce que vous dites est exact. » Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut quand même croire que par l'imagination, on pénètre des choses que historiquement resteront toujours un mystère. Mais avec l'imagination, on peut vraiment fracturer toutes les portes.
À partir de données précises sur lesquelles...
À partir d'une bonne connaissance de la question.
Et après, c'est l'instinct, c'est la partie instinctive de l'être.
C'est
l'intuition.
Et c'est imaginer comment cette reddition s'est passée, comment tout d'un coup l'affaire d'Algérie allait se liquider, Et comment elle ne s'est pas liquidée, au contraire, que c'est le négociateur de la rébellion qui a été assassiné.
Il y a aussi la vérité sur les massacres de Katyn.
Alors, l'histoire de Katyn, ça, je peux vous dire que ça m'a valu quelques volées de bois vert. Hein. Ça, y compris dans les journaux de droite, enfin, en disant, voilà, cette vieille histoire, vraiment, on sait très bien que ce sont les Allemands qui ont tué les 16 000 officiers polonais, chacun d'une balle dans la tête. Vous dire par la journée de gauche, naturellement, ou bien le mentionner ou me traiter de fabulateur et que vraiment je sortais du roman. Voilà. Et bon, j'ai laissé passer l'orage, ça a été un vrai orage, je me souviens bien, c'était un moment assez curieux, très amusant pour ça. Au contraire, c'est très fortifiant, hein, parce que j'étais sûr d'avoir raison.
Mais des moments de solitude quand même.
Voilà. Et puis 3 ans après, finalement, les Russes ont avoué. J'ai pas eu de, ni dans le Figaro, ni dans l'Huma, regret d'avoir maltraité Michel Déon sur cette question-là.
Voilà, c'est dit aujourd'hui. Parler de 4 personnages masculins, mais les femmes ont aussi leur part, et avec toute leur séduction, leur énergie. Donc, ces 4 personnages vont croiser plusieurs femmes exceptionnelles, Delia, Sarah, Claire, Anna, la Russe. Vous les regardez avec tendresse ?
Oui, d'abord, je les aime beaucoup. Je les aime, mais enfin, je les montre un petit peu comment elles sont extrêmement diverses, n'est-ce pas ? Et comment elles agissent dans la vie d'un homme, soit en se battant avec lui, soit en disparaissant.
Comment est-ce qu'elles apparaissaient ? Et faites-nous un peu, tracez-nous la frontière entre le vécu et que des amis vous ont raconté, que vous avez vu de vos propres yeux dans vos différentes vies.
Pas dire dans mon lit, non, quand même.
Ah, je ne sais pas, cher monsieur Léon. Mais comment ça se passe ? Ce sont des personnages que vous créez, que vous partez d'éléments...
Des éléments divers que l'on a rencontrés dans la vie, qui vous ont particulièrement... Des événements, souvent, des attitudes, des caractères qui vous ont particulièrement frappé. Et puis, celles qu'on a aimées, et puis celles qu'on a vues disparaître. Ça. Il y a d'ailleurs le cas d'une jeune femme qui disparaît dans le bombardement de Londres, et qui reste toujours là, alors qu'elle n'est pas une aventure importante, mais c'est simplement sa mort tragique au volant de sa voiture militaire. Alors, c'est une bombe, elle est morte. Et je connaissais depuis 3 mois, et cette perte d'un être, tout d'un coup, qui pouvait peut-être donner autre chose, ou ils se seraient peut-être séparés 6 mois après, parce qu'elle n'était pas excessivement intelligente ni drôle. Elle était bien faite. Ils ont bien roulé et c'était ça qui l'intéressait. Mais le fait que cette créature innocente disparaisse comme ça, éclate en morceaux, c'est quelque chose qui reste toute la vie à laquelle on pense. Il y a d'autres personnages qui ont été inspirés certainement en effet par des êtres que j'ai connus et qui ont beaucoup compté dans mon existence. Mais ce sont un trait de caractère de l'une, un trait de caractère de l'autre, pour essayer de composer un être compréhensible et surtout aussi véridique que possible. Il y a le portrait de cette enfant très jeune juive réfugiée en Angleterre dans une famille assez ennuyeuse d'un pasteur et qui rencontre le héros du livre quand elle est une jeune femme. Et bon, c'est l'amour, mais ce n'est pas le grand amour, ça ne pourra jamais être, parce qu'il y a eu un drame épouvantable dans la vie de cette femme, de cette jeune fille. Et les deux êtres resteront profondément attachés, beaucoup plus que par l'amour, par quelque chose qui s'est passé entre eux, qui est une espèce de pacte, de paix entre eux. Il n'y aura jamais un mot déplacé, il n'y aura jamais un geste déplacé. Ce sont deux êtres qui se sont parfaitement compris. Et ils se sont compris parce que chacun a gardé sa liberté.
Ce qui nous réjouit en tant que lecteur, Michel Déon, c'est la générosité de l'écriture. C'est-à-dire que ça foisonne de détails au niveau psychologique, au niveau des lieux. Je veux dire, il n'y a aucune partie sèche, aucune partie aride. Et je pense que les nouvelles générations doivent être sensibles à cette communication très riche, tous azimuts. C'est-à-dire que tous les détails nous parlent et donnent chair à ce que vous écrivez.
Bien, écoutez, je suis très flatté de ce que vous me dites. Je suis très sensible parce que c'est en effet une de mes préoccupations constantes dans tout ce que j'ai écrit, d'approcher autant que possible une description exacte du milieu, de l'air, de l'atmosphère, des relations entre hommes et femmes et entre hommes et hommes, parce que c'est un combat perpétuel qu'il faut livrer entre hommes, n'est-ce pas ? Il y a un autre combat avec les femmes, mais j'ai essayé d'être aussi juste que possible.
Et on vous voit sur tous ces terrains-là. Aucun n'est oublié et c'est ce qui fait la richesse du monde que vous décrivez, que vous nous confiez, que vous nous offrez. Alors, je voulais vous demander, souvent dans ce type d'émission, nous vous proposons quelques mots. Et ces mots-là, si vous le voulez bien, je vais vous les présenter. Et comme ça, à chaud, vous choisirez l'angle d'attaque, l'angle de communication que vous souhaitez opérer à partir de ce mot. Le mot « enfance ».
Eh bien, l'enfance, j'en ai parlé que dans un seul livre, qui est un livre, ça s'appelle « La chambre de ton père », qui est lié à l'événement tragique de ma vie dont j'ai parlé, qui se termine par une enfance inachevée, ne s'oublie jamais. C'est mon père qui est mort quand j'avais 13 ans. Quelqu'un en qui j'avais une extrême confiance, peu de communication, mais j'ai l'impression, peut-être des années après, je ne crois pas que ce soit mon imagination qui joue, nous attendions de pouvoir nous parler, nous attendions d'être d'homme à homme. Là, tant que j'étais un petit garçon, il y avait le visage non pas de bois, mais le visage assez sévère, assez exigeant aussi. Mais je sais très bien que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible qui ne voulait pas montrer les choses qu'il blessait. Et la mort brutale de cet homme, il a eu une attaque très jeune, à 40 ans, c'était quelque chose que je n'ai pas très bien compris sur le moment, mais dont j'ai compris des années après combien elle était importante dans mon existence. Il a manqué un homme auprès de moi à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge où on s'en passe, c'est-à-dire l'âge où on devient étudiant, on est libre, bon, on sort du cadre familial. Et peut-être que la présence du père et l'absence du père, c'est quelque chose de terriblement important dans la vie.
Et peut-être que grâce à ça, vous avez communiqué avec nous par la littérature.
Voilà.
Alors donc, cette évocation m'amène, comme par hasard, au deuxième mot, qui est le mot « au-delà ».
Alors là, c'est une question à laquelle souvent je m'ai posé quand même. Mais je dirais que j'emprunterais à un homme que j'aimais bien, qui a disparu, que j'ai à peine connu, qui était Maurice Genevoix, mais qui était un homme très sensible et qui avait vécu la tragédie de la guerre de 14-18 et qui, sur des questions intérieures, avait répondu un jour, c'est une affaire entre moi et moi.
On l'a évoqué, le mot voyage.
Oui, parce que alors là, je vous dirais, bon, j'aimais bien le voyage. Je n'avais pas fait beaucoup quand j'étais enfant avant la guerre, à part les séjours en Angleterre, l'école en Angleterre, enfin l'université en Angleterre, et puis relation amoureuse avec l'Angleterre, bien entendu. ça, c'est le, premier, le deuxième déniaisement. qui m'ont beaucoup attaché, disons, à la, je parle de l'Angleterre, mais ça veut dire la Grande-Bretagne, n'est-ce pas ? C'est pas seulement l'Angleterre. Oui, ça, c'est une très bonne éducation, de se trouver, disons, à 13-14 ans, dans un milieu anglais, dans une famille anglaise, où il n'y a pas de garçons, mais de filles très jolies, très gaies, très libres, très charmantes. Et ça, ça vous laisse des souvenirs inoubliables.
Eh bien justement, le prochain mot, c'est le mot « amour ».
Le mot « amour », évidemment, on pense toujours à la première fois. Et pour moi, j'ai eu une chance extraordinaire, car la première fois, c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel, plus âgé que moi, Elle avait 10 ans de plus que moi, c'est bien qu'elle aurait 102 ans aujourd'hui. Et donc, je pouvais difficilement espérer de la garder auprès de moi toute ma vie. Mais c'est un être qui m'a énormément apporté. Et moi, j'avais 18 ans et elle en avait, je ne sais plus, 28, oui, c'est ça. Et elle a été à la fois l'amour et une gardienne et quelqu'un qui a su beaucoup m'ouvrir la vie.
Justement, vous utilisez le mot « ouvrir », l'amour, une énergie.
Oui, quelqu'un d'admirable qui avait traversé des épreuves et qui les traversait perpétuellement et qui peut-être avait réussi à les traverser simplement parce qu'elle m'avait rencontré. Je dirais, je peux le dire après, parce qu'elle avait rencontré un innocent, enfin encore. Bon, elle avait réussi à se guérir. Et voilà, et nous avons été toute ma vie avant qu'elle... meurt de sa propre main, à 80 et quelques. C'était quelqu'un qui... Elle était là, près de moi, même si je ne téléphonais pas, si je n'écrivais pas pendant un an, je savais qu'elle était là.
Elle accompagnait.
Et je vous dirais même quelque chose, j'espère que ça ne va pas faire rire tout le monde, mais elle est toujours là. C'est quelqu'un qui est toujours derrière moi. Et je ne peux pas exprimer, je n'ai pas été non plus toujours très bien avec elle, parce qu'évidemment, j'étais un jeune homme et... Les occasions passaient, je ne crois pas qu'elle en ait beaucoup souffert, un petit peu quand même, plusieurs fois. Mais c'est quelqu'un qui est assez magique. C'est un être très magique et très malheureux et il est vraiment désastreux que nous n'ayons pas eu le même âge.
Mais c'est magnifique que dès la première fois, rencontrer son complément féminin, c'est la vie vous a gâté.
Oui.
Alors justement, le mot bonheur sur Terre. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ?
Oui, vous savez, je ne sais pas, on a dit un jour, je ne sais plus qui, un critique qui avait pas mal lu un livre qui se terminait très mal, il a dit « Oh, c'est le romancier du bonheur ». Je dis, il n'y a pas beaucoup de mes livres qui se terminent par le bonheur, au contraire, malheureusement, c'est assez, toujours assez amer.
Ou pas, réaliste.
Ou amer, ou sévère. Ou... Je ne crois pas que ce soit le romancier du bonheur. Mais le bonheur peut passer, là, bien sûr, comme il passe dans nos vies, enfin, heureusement. Et quand même de temps à autre, on ne vit pas dans le bonheur. Bien, je peux dire que par exemple, que oui, il m'est arrivé, mais après, mais c'est personnel. Et je peux dire d'une période de ma vie, j'ai vécu dans le bonheur. J'ai connu le bonheur. Je sais laquelle, c'est là, quand je me suis installé en Grèce et que j'ai eu des enfants.
Voilà. La notion du mal, vous avez rencontré mal.
Oui. Oh oui, j'ai rencontré le mal très souvent. Et j'ai d'ailleurs toujours été puni de ma naïveté. Je ne pouvais pas imaginer que l'être dont je ne me méfiais pas était quelqu'un qui me voulait du mal. J'ai connu ça. Mais cela dit, j'aurais vraiment mauvaise grâce à me plaindre parce que j'ai eu toute ma vie des amis merveilleux. Mais ma grande tristesse à mon âge, et la seule, c'est d'être un survivant. Je suis le survivant d'une génération. À partir de la guerre, on a dévoré quelques-uns. La misère, la maladie, l'éloignement, l'oubli, tout ça vous sépare d'être avec lesquels vous pensiez vivre toute votre vie. Enfin, des amis merveilleux. Ou bien ces amis sont tout d'un coup murés dans le silence, par la surdité, l'incapacité... Alors là, tout d'un coup, ça, c'est tragique.
Avant votre entrée dans le studio, M. Saint-Sernin était là et évoquait Platon, le Timée, etc. Notre existence, le sens de l'existence. Le sens de l'existence, Michel Déon.
Mais je crois qu'il y a tant de belles choses à aimer, à faire. Il y a tant de choses dont on doit pouvoir se préserver. On doit pouvoir se préserver du mal. On doit se préserver de certains êtres. Mais que, au fond, c'est une aventure assez passionnante. À partir d'un certain âge, comme on n'est plus impliqué de la même façon, il arrive qu'à un moment, on se dise « Bon, ben, je m'en vais, je ne suis pas mécontent, j'ai vraiment, j'ai pas perdu tout mon temps. »
Et à ce moment-là intervient donc, vous nous parliez tout à l'heure, de ces beaux souvenirs passés en famille, la transmission, le sens de la transmission, transmettre aux jeunes générations.
Voilà, ça c'est très important. Et par exemple, d'avoir des enfants, c'est un changement total dans la vie, même si ces enfants ne vous ressemblent pas du tout. Enfin, ce n'est pas mon cas en tout cas, mais sont différents.
Oui, c'est l'aventure de connaître l'étranger qui est le nôtre, qui est familialement.
Toujours, et l'important, c'est de toujours le laisser très libre à la fois de se jeter dans la gueule du loup, de se tromper, d'être malheureux. Mais quand les enfants sont malheureux, on l'est beaucoup plus qu'eux encore.
Alors, Michel Déon, quel prochain roman allez-vous nous revisiter ?
Je crois qu'après cette expérience, j'attends de savoir si c'est couronné de succès, je crois. Oui, on m'a dit, mais beaucoup n'ont pas compris le désir que j'ai eu de brosser un livre. Tout à l'heure, vous parliez d'une brosse, mais ça, c'est un souvenir que je garde parce que j'ai été journaliste et j'ai travaillé dans l'imprimerie au plomb.
Ah, donc, le coup de la brosse, vous connaissez.
Moi, je savais lire un journal à l'envers, vous savez, sur les plombs. Et une fois passé les dernières inquisitions, le prot de l'atelier venait avec une grande brosse, il brossait la page, celle de plomb, qui était dans un cadre, et ça partait pour l'impression, pour ce qu'on appelle d'ailleurs la morasse. Bon, et alors je garde un peu cette idée, on disait, mais ça a été mal brossé. Eh bien, tout d'un coup, je dis, mon livre, il a besoin d'un bon coup de brosse du prot, celui qui arrive avec sa brosse en crin, la piquée là, qui vraiment efface tout ce qui dépasse toutes les petites scories. Donc, c'est un travail interminable qui va me prendre plusieurs siècles.
Ah. Mais les poneys sauvages sont toujours là, avec nous pour accompagner les générations futures. Merci Michel Déon.